Nous poursuivons cette matinale spéciale scientifique. Cette fois-ci, nous allons nous pencher sur l'intelligence et l'intelligence artificielle. 7h40 sur France Culture.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Bonjour Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle, professeur au laboratoire d'informatique de l'université Pierre et Marie Curie et membre de l'Institut universitaire de France. En face de vous se trouve Lionel Nakache, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et chercheur en neurosciences cognitives au centre de recherche de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Comment pourriez-vous définir, Lionel Nakache, l'intelligence ?
Alors en un pied sur une minute, l'intelligence, peut-être le premier point, c'est étymologiquement, évidemment, on a tous en tête cette notion de pouvoir établir des liens entre des choses qui n'en présentent pas de manière apparente. Et ça, c'est, je pense, une définition de l'intelligence qui est tout à fait recevable et qui reste très pertinente. Même si on se plonge dans la vie quotidienne ou, par exemple, dans des découvertes scientifiques majeures, si, par exemple, vous réfléchissez par analogie en essayant d'établir un lien entre un système solaire et un atome, en disant des électrons, c'est comme des petites planètes qui tournent autour d'un soleil, eh bien là, vous avez déjà une forme d'analogie et donc une forme d'établissement d'un lien. Un lien dont vous allez pouvoir explorer la pertinence. Donc on peut, première définition générale, dire l'intelligence est la capacité à voir des liens ou à poser des liens là où ils ne s'offrent pas à vous spontanément. Et ensuite, évidemment, c'est que le début, parce qu'on devrait parler plutôt des intelligences plutôt que d'une intelligence au singulier. D'ailleurs, c'est très à la mode, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence rationnelle, etc. Ce qu'on veut dire par là, c'est que dans l'histoire de la psychologie de l'intelligence, on a par exemple deux écoles qui s'affrontent un petit peu, mais qui est de manière dialectique évidemment. C'est d'un côté les facultés, l'intelligence des facultés, c'est-à-dire la capacité à développer des aptitudes très particulières dans des domaines spécifiques, le calcul mental, la vision, la perception, le langage, etc. Et puis à côté de ça, vous avez un facteur beaucoup plus abstrait, beaucoup plus général, qui s'affranchit d'une certaine manière des facultés spécifiques qu'on veut appeler l'intelligence générale. Donc là, vraiment très rapidement, mais on peut au moins voir trois pôles de cette question complexe de l'intelligence. La capacité à établir des liens, là où il n'y en a pas de manière évidente. La capacité à creuser des aptitudes particulières dans des domaines spécifiques, mentaux, cognitifs, et puis évidemment un aspect beaucoup plus général qui vous permet un peu d'orchestrer, ou ce qu'on appelle actuellement les fonctions exécutives, c'est la capacité à pouvoir mettre en branle, un peu comme dans un concert ou comme dans un orchestre, de manière plus ou moins harmonieuse, ces différentes facultés pour affronter les questions que vous vous posez.
J'ai sous les yeux une couverture de l'Express. La couverture de l'Express de cette semaine où il est question d'intelligence artificielle, c'est semble-t-il un sujet qui revient vraiment au cœur de l'actualité. Le mimétisme, est-ce une partie de l'intelligence, puisqu'on voit que les journalistes, semble-t-il, se penchent tous sur l'intelligence artificielle aujourd'hui?
Alors vous avez raison, je vais rester extrêmement poli, mais effectivement le mimétisme c'est un mécanisme important, mais qui est important dès la naissance par exemple. Un des domaines les plus fascinants pour étudier l'intelligence, c'est comme toujours en psychologie, soit vous étudiez un système qui est à peu près mûr, soit vous étudiez l'apparition de quelque chose qui n'est pas encore constitué. Et quand vous étudiez le développement de la cognition chez des bébés, eh bien vous vous rendez compte qu'effectivement les facteurs interpersonnels, donc les facteurs sociaux interpersonnels, notamment les relations mère-enfant par exemple qui ont été très étudiées, voient qu'à travers des partages de regards partagés, vous allez pouvoir échanger des compétences et notamment de savoir qu'est-ce qui doit être investi comme objet, quelles sont les compétences qui vont être imitées. Et vous avez sans doute entendu parler de ces découvertes assez importantes et du coup qui parfois est galvaudée mais qui reste très importante, celle des neurones miroirs par Rizzolatti, l'italien Rizzolatti, qui nous montre qu'on a des systèmes qui nous permettent, lorsqu'on observe des actions ou des schémas particuliers, de reproduire intérieurement ce que l'on observe. Et qu'on a une sorte de base fondamentale cérébrale d'imitation de ce qu'on est en train de voir qui nous permet de le maîtriser, de l'internaliser et qui va nous permettre à notre tour d'acquérir telle ou telle compétence.
Et dans l'intelligence artificielle, Jean-Gabriel Ganassia, l'imitation fait partie évidemment du travail.
Oui, ça commence même d'une certaine façon par l'imitation. Alan Turing, qui a été considéré comme l'un des précurseurs, même s'il est mort avant que la discipline ne soit née, a imaginé ce qu'il appelle le jeu de l'imitation, où justement, on va avoir d'abord un homme qui va imiter une femme, et avec un interrogateur qui va essayer de distinguer l'un de l'autre, et puis ensuite une machine qui imite l'homme qui imite une femme. Et il dit cette machine est intelligente si effectivement elle trompe l'interrogateur sur un délai suffisamment long.
Et alors aujourd'hui, le fait que l'intelligence artificielle soit au cœur de l'actualité, y a-t-il véritablement une rupture en cette année 2016 à attendre de la part de l'intelligence artificielle ?
n'y a pas de rupture très nette dans les technologies qui font l'intelligence artificielle. Je rappelle quand même que c'est une discipline qui a 60 ans, que le pionnier de l'intelligence artificielle, Marvin Minsky, est décédé il y a 15 jours tout juste. Donc, discipline relativement ancienne, mais discipline qui joue un rôle majeur dans la société contemporaine. On parle de société numérique. Mmh. La plupart des supports de connaissances s'expriment aujourd'hui sous forme numérique. Leur interprétation requiert des technologies qui sont celles de l'intelligence artificielle. Il faut bien comprendre que dans les 60 dernières années, donc depuis que l'intelligence artificielle est née, je crois qu'il n'y a pas une discipline qui a autant transformé le monde. Par exemple, ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que le web, c'est-à-dire Internet, mais pas seulement, il y a l'hypertexte. L'hypertexte lui-même est un modèle de mémoire qui résulte de travaux d'intelligence artificielle. Et puis, bien sûr, ensuite, on peut parler de toutes les technologies qui nous entourent et de toute l'évolution de ces technologies.
Alors, je ne sais pas s'il y a une rupture à attendre précise en 2016. Vous semblez en douter, Jean-Gabriel Ganassia. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une rupture en matière de jeu, en matière de jeu de Go. Et si on se projette quelques années en arrière, on se souvient, par exemple, d'une célèbre partie d'échecs que Kasparov avait disputée contre un ordinateur.
5h45 de jeu et hier, Kasparov égalise un partout. Il lui reste désormais 4 parties pour imposer son intuition à la force de calcul de la machine, gagner son pari et empocher 2 millions de francs.
Je regrette, Frank, vous avez raté le coche. Dame à C3, fou prend dame, cavalier prend fou, échec et mat.
C'est imparable. Bien joué.
Merci, Frank. C'était une partie très agréable.
Merci, Carl.
Ça, c'était dans 2001, Odyssée de l'espace. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Il y a donc un ordinateur qui a battu un joueur de Go, Jean-Gabriel Ganassia. Il y avait, dans cet ordinateur qui tentait de battre Kasparov, un bug qui a fait que c'est Kasparov qui l'a emporté. Qu'est-ce qui s'est produit en l'espace d'un peu plus de 15 ans pour qu'un ordinateur réussisse à battre un joueur de Go ?
On peut déjà se demander qu'est-ce qui s'était passé lorsque Kasparov lui-même a été battu par la machine. Il faut savoir que c'est une vieille histoire qui commence au tout début de l'intelligence artificielle, avec des gens comme Turin, comme Shannon, qui essayent de faire des programmes de jeu. Ensuite, McCarthy, l'homme qui a inventé le terme d'intelligence artificielle, s'est beaucoup intéressé au jeu. Il a dit d'ailleurs que le jeu d'échecs, c'était un peu le test des machines. Il pensait que c'était vraiment tout à fait emblématique de ce qu'on était capable de faire. Et progressivement, par d'une part la rapidité de calcul, la puissance de calcul, et en même temps par l'intelligence ajoutée, par les connaissances qui étaient à l'intérieur des programmes, on est arrivé à faire un programme qui a gagné un homme. Ça n'a pas été sans mal. Il y a eu différentes étapes. Il y a eu un pari, par exemple, entre McCarthy et David Levy, se demandait s'il allait battre la machine. Et là, on a continué avec un jeu qui était réputé difficile, dont on pensait qu'on ne parviendrait jamais à battre les meilleurs champions. Il y a quelques années, il y a eu quand même un ordinateur qui a battu un joueur professionnel qui était dans un rang très élevé au Go, c'était en 2013, et là on a battu le champion d'Europe au Go, donc ce qui est très impressionnant.
Je vais pas rentrer dans le débat miné pour savoir si le jeu de Go est plus compliqué que le jeu d'échecs. Ce qui est certain, c'est qu'il est compliqué au vu du nombre de cases sur un échiquier de Go de se reposer uniquement sur la puissance de calcul de la machine.
Tout à fait, c'est la même chose que le jeu d'échecs, si ce n'est que c'est démultiplié. Et la question qui se pose, c'est de savoir si c'est une véritable victoire pour l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est d'abord la capacité d'imiter l'intelligence humaine avec une machine pour essayer de mieux la comprendre. Et là, on arrive à dépasser l'homme sur des tâches précises, mais avec des moyens qui sont différents des moyens qu'utilise l'homme pour les accomplir.
Lionel Nakache, lorsque vous étudiez le cerveau humain, le jeu, ça fait partie de ces capacités de l'homme, de l'être humain, lorsqu'il est doué d'intelligence, avec là aussi une faculté assez singulière malgré tout.
Ah oui, le jeu JEU, c'est évidemment, il y a un point important, c'est qu'il y a souvent une dimension projective. Souvent, lorsque vous jouez à un jeu, le fondement même, c'est qu'on va faire comme si c'était un combat, comme si, voilà, comme si j'étais en train de jouer en jeu d'échecs, par exemple, diriger une armée, par exemple, etc. Et cette faculté qu'on appelle projective, donc la capacité à pouvoir sortir de l'ici et maintenant, c'est-à-dire pouvoir vous imaginer ailleurs que là où vous êtes, et ailleurs que dans la temporalité où vous êtes, c'est une des propriétés fondamentales de l'esprit humain, absolument.
Lorsque deux êtres humains jouent aux échecs, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'intuition, il y a aussi la capacité de bluff, les pressions psychologiques qu'un adversaire peut exercer sur l'autre. Et ça, évidemment, c'est compliqué de les mettre en équation dans une machine.
Oui, c'est compliqué. Et puis d'ailleurs, alors c'est pas du tout mon champ d'expertise, mais un des points singuliers, c'est que ces phénomènes de pression psychologique sont importants entre joueurs humains. Mais dès qu'un joueur humain joue contre une machine, en général, ils ne sont pas là. Évidemment, pour la machine, en tout cas, ils sont là pour l'humain qui va jouer. Mais il est difficile sans doute de bluffer une machine. Et ce qui nous amène peut-être vers un autre aspect, c'est qu'on a souvent opposé les aspects d'intelligence rationnelle ou d'intelligence émotionnelle, où on peut revenir encore plus loin avec Pascal et l'esprit géométrique et l'esprit de finesse. Eh bien, un des points qui me semble, moi, fascinant, c'est que si l'intelligence artificielle a réussi à progresser sur la dimension géométrique avec des capacités de calcul massivement parallèles, on peut s'interroger sur sa capacité ou pas à pouvoir creuser ce qui a d'habitude été dans notre culture clivé d'une certaine façon, et voir si certaines dimensions de cet esprit de finesse peuvent être investies par une intelligence artificielle. Et ça, je pense, c'est un défi majeur.
Et d'après ce que j'ai compris, justement, Jean-Gabriel Ganassia, dans cette machine qui a battu le joueur de Go, il y avait une attitude très prudentielle, c'est-à-dire que la machine ne se reposait pas sur sa force de calcul brute, elle avait des ouvertures qui étaient très prudentes.
Oui, c'est toujours une combinaison entre, d'un côté, effectivement, une force de calcul. Il faut savoir quand même que le nombre de processeurs qui étaient dans cette machine est considérable, et que si elle a battu, c'est parce qu'elle avait plus de processeurs que la génération précédente. Donc la force de calcul est centrale. Mais en même temps, on rajoute à cette force de calcul un certain nombre d'heuristiques, un certain nombre de choses qui correspondent un tout petit peu à l'intuition, et puis des connaissances. Et là, on a essayé de lui introduire des éléments sur les ouvertures, sur les différentes figures, etc. Donc c'est bien sûr ce mélange qu'il y a entre le calcul et puis des éléments qui répondent à l'intuition qu'on est arrivé à capter. Malheureusement, bien sûr, on ne capte pas tout. Et ce qu'on sait, c'est que la façon, si on regarde les traces d'exécution de la machine, se distingue totalement de ce que les psychologues sont arrivés à identifier chez les grands joueurs, où on se rend compte que les gens explorent très peu de possibilités et qu'ils vont, en revanche, avoir une stratégie qui va être très profonde. La machine, elle, a beaucoup plus de mal à faire ça.
Et donc, c'était en quelque sorte une machine déroutante pour l'homme dans sa manière de jouer. On dit que la Google Car a également des réactions déroutantes et que du coup, lorsqu'on a une voiture autonome, puisque la Google Car est autonome sur la route, eh bien, elle peut provoquer des réactions de surprise de la part des autres conducteurs, Jean-Gabriel Ganassia.
Ah ça, bien sûr, tous ces dispositifs autonomes peuvent, dans certains cas, se comporter de façon surprenante. Mais il faut quand même dire que la Google Car elle-même est fondée sur des principes d'apprentissage avec beaucoup de données, et donc qu'elle va se conduire un peu comme se conduiraient des conducteurs normaux. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour qu'elle soit elle-même, on a parlé de mimétisme tout à l'heure, qu'elle soit un peu le reflet de ce que sont les actions des conducteurs habituellement. Alors ensuite, bien sûr, il se peut qu'elle capte des informations qui ne soient pas tout à fait perçues par d'autres, et donc qu'à ce moment-là, elle ait des réactions un tout petit peu différentes de ce que les gens peuvent imaginer.
Depuis qu'on parle des réseaux de neurones, d'ailleurs, l'une des promesses disruptives de cette technologie, c'est la capacité d'apprentissage.
Alors, les réseaux de neurones, on en parle quand même depuis très longtemps. Vous savez qu'ils ont été inventés en 1943. L'apprentissage des réseaux de neurones, lui aussi, commence très tôt, avec le perceptron, par exemple, à la fin des années 50, ce qui pose beaucoup de problèmes. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des technologies qui, à la fois, ont beaucoup de potentialités, puis qui déçoivent, et puis qui ensuite, il y a eu des résurgences. Et là, on est à la troisième, avec l'apprentissage profond, à la troisième renaissance des réseaux de neurones formels.
Le deep learning, l'apprentissage profond, Lionel Nakache.
Oui, ce que vous disiez par exemple sur la voiture Google, l'aspect déroutant, ça renvoie aussi vers une propriété qui est très importante dans la cognition, donc dans l'intelligence sociale cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, ou theory of mind, c'est-à-dire que pour se comporter de manière la plus efficace et la plus riche possible, la plus épanouissante, il faut que par exemple lorsque j'interagis avec vous, que je sois capable de me représenter votre esprit, et de me représenter votre état de croyance, ce que vous pensez, et savoir si vous êtes en train de me raconter une blague, si vous vous moquez de moi, si moi je suis en train de vous mentir, etc. Et donc l'aspect déroutant de la voiture Google, elle peut nous instruire sur l'écart qui reste encore dans le comportement de ces algorithmes de Google Car qui font que l'image que le conducteur humain qui est en face de cette voiture va élaborer ne lui permette pas d'arriver à inférer des états mentaux allégués, en tout cas qui lui permettent d'interagir de manière optimale. Autrement dit, dans cet aspect déroutant, je pense que cet aspect déroutant peut être diminué à mesure que l'on aura réussi à apprendre à des algorithmes à internaliser des composantes qui nous permettent à nous, comme humains, d'inférer des états mentaux. Et je pense que là, par exemple, avec des robots sociaux, c'est un peu ce qui se passe, non ?
Oui, en intelligence artificielle, il y a juste des travaux comme cela sur la représentation de l'autre.
On continuera à en parler à 8h15. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Lionel Nakache, L'homme raisonnable aux éditions Odile Jacob. Vous évoquiez, Lionel, la difficulté, la capacité d'un être humain à se mettre à la place d'un autre, à tenter de comprendre ce qu'il avait dans son esprit. Gérard Berry est en train d'essayer de se mettre dans l'esprit de Brice Couturier.